si vous n'êtes pas encore enregistré, Église, sur cette pour cette conférence qui aura le 30-31 ici à Wellington, si vous avez le temps, il y a un kiosque en dehors où Andy et sa femme et son fils sont là. Nancy, elle est là et allez-y, vous pouvez aller dire la saluer. Et s'il vous plaît, Église, est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît, chaleureusement? Oui, Andy et Nancy ont commencé ce ministère et comme si vous ne le savez pas, au premier, je suis un orateur ce jour-là et je suis l'un des plus minces. Les autres, je vois, les autres sont musclés. Et je pense que son fils est même plus grand, plus costaud que moi. Je me sens un peu insécure par rapport à ça. Ils nous ont invités. Qui es-tu sur le stage et en dehors? Et je peux le dire que vous êtes vraiment la même personne. C'est pourquoi je... apprécie en dehors de votre je peux juste prier avec toi alors qu'on commençait à propos de ce que vous êtes en train de faire et le travail que Dieu vous a donné parce qu'il semble que ça grandit. Jésus, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions pour ta parole écrite. Comme elle a été inspirée par toi. Alors que nous posons des grandes questions, est-ce qu'on peut croire à la Bible? Quelque chose que Andy a continué à travailler dessus, mais il semble que ces questions ne finissent pas à cause des doutes, et cela veut dire que ça nous montre que tu travailles dans les cœurs des gens. Puisses-tu continuer à travailler avec eux et à l'utiliser. Je sais que tu l'as donné une grande responsabilité. Protège-le, guide-le. Et en ces moments où il va enseigner ta parole, puisses-tu le remplir, Seigneur, de ton esprit encore. Nous te le demandons pour la gloire de ton nom et nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur V. Nous avons notre Pasteur V. Nous allons la voir avec une alimentation de protéines. J'espère que ça va l'encourager. Et bonjour, Willingdon. C'est si merveilleux d'être avec vous. Merci, Pasteur Vin et Master Pasteur Ray, pour l'invitation. C'est vraiment un privilège d'être ici. Comme il a été mentionné, je m'appelle Andy et je suis le président de Apologetic Canada. Vous avez vu, nous avons commencé avec ma femme en 2010. Et si ce mot est nouveau pour vous, ça vient du mot grec apologia. Et l'apôtre Paul dit que l'apôtre Pierre qui dit que nous devons donner. C'est ce que nous faisons dans notre organisation à travers le Canada, États-Unis, et qu'il y a une bonne raison de placer ton espérance en Jésus. Et c'est ici ma prière, honnêtement. Je prie que tu puisses avoir l'espérance, que tu puisses avoir la raison de cette espérance en Jésus. Et je veux vous encourager, Église, alors que j'ai le privilège de faire ce ministère à travers le Canada. Je sais que cela peut devenir un peu difficile à travers les temps. Mais le privilège que j'ai à rencontrer les gens, et je veux que Dieu est en train d'agir. Et je vois beaucoup de gens venir à Dieu depuis que j'ai commencé. Beaucoup de gens vouloir aimer la parole, lire la parole de Dieu. En fait, j'étais en train de parler avec on peut se dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui lisent la parole de Dieu comme cela n'a jamais été fait dans l'histoire de la Bible. Et une des façons qu'on voit cela, c'est à cause de l'accessibilité de la technologie qu'elle nous donne, la technologie nous donne à travers la Bible. Récemment, j'étais à Oklahoma, où YouVersion, le siège. Je ne sais pas si vous le savez, que c'est cette application. Dernièrement, mon garçon venant de l'université à UBC, il est revenu vers Noël passé. Il a dit, oh, je voudrais. Il a dit, je voudrais faire une lecture avec vous, papa et maman. Et c'est vraiment bon parce qu'on a commencé à faire une lire ensemble. Et vous savez, il y a même des options de vous pouvez lire en groupe et partager vos expériences ensemble. Et une chose qui nous a fait que nous allions là-bas, c'est qu'ils étaient en train de célébrer le 1 milliard. Ils avaient atteint le 1 milliard de téléchargements de l'application. Et c'est un outil remarquable qui peut aider les gens à vraiment lire la parole, la Bible. Et une chose que j'ai remarquée, je trouvais que c'était intéressant, c'est qu'on nous a donné les statistiques qui sont derrière les statistiques, les grandes lignes qui viennent des statistiques. Et les questions les plus posées étaient le plus souvent que les gens lisent la Bible et de questions, cherchent des réponses à certaines questions. Et pourquoi nous existons, pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous souffrons. Et le top 10 des questions les plus posées dans toutes ces. Et la variation de toutes ces questions était pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et la vérité, c'est que nous vivons dans un monde brisé et j'ai de. Quand nous expérimentons cela, nous voulons avoir des réponses dans la Bible. Alors que j'étais à Oklahoma, on m'a montré ces statistiques, ça m'a juste directement rappelé un séjour que j'avais au Rwanda il y a 2 ans et on m'avait demandé d'y prêcher pour le 30e anniversaire du génocide et on m'a demandé de parler pourquoi Dieu permettait-il le mal et je me sentais inadéquat pour cette tâche. Mais je savais, vous savez, 1 million de personnes étaient mortes pendant ce génocide, en 100 ans. Et je me posais la question, qu'est-ce que je pouvais dire? Et je me suis dit, la meilleure chose que je puisse faire, c'était d'amener les gens à la parole de Dieu pour trouver des réponses. Et nous avons eu, après l'exposé, il y a eu des questions-réponses et une femme au dernier rang qui avait vécu le génocide a levé la main, a demandé est-ce que je peux vraiment faire confiance à la Bible? Est-ce que je peux vraiment faire confiance que c'est vraiment vrai et que c'est vraiment la parole de Dieu? Et c'est vraiment une grande question et c'est toute question qu'on devrait se poser. Et une chose pour laquelle je suis reconnaissant, c'est que Willingdon va accueillir cette conférence dans 2 semaines. Ça va être un temps merveilleux pour poser des grandes questions de vie et de lutter ensemble en ayant des pensées et des réponses. Si vous n'êtes pas encore enregistré, je vous encouragerai à le faire. Et au-delà de tout ça, si vous connaissez quelqu'un qui a des questions, ça serait une opportunité de les amener. Il y aura des grands orateurs. On aura Wesley Terry Cabot, on aura Justin Brierley, et beaucoup de sessions avec, entre autres, le pasteur Vin. Et si vous ne sentez pas attiré à le faire, je ne sais pas quoi dire, mais ça va être un bon moment. Et quand cette dame a posé cette question, pourquoi est-ce que je devais, pourquoi, comment est-ce qu'elle devrait faire confiance à la Bible? Dans certaines manières, ça me semblait une question encore plus difficile encore. Et je veux essayer aujourd'hui de répondre à la question, est-ce que nous pouvons faire confiance à la Bible? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Et pour faire cela, je vais aller le livre de Actes 12, alors que j'y reste et je vais demeurer dans ces passages, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va. On va regarder trois phrases et comment ça nous montre quelle perspective, pourquoi, comment. Et là, on va. Et je vais lire au chapitre 12. À cette époque-là, le roi Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'Église et il fit mettre à mort par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Excusez-moi, le martyre de Jacques montre que la Bible a été écrite tôt. La première chose que je veux montrer est que le. Alors que Hérode a arrêté les chrétiens à cette époque, et Luc souligne que Jacques, le frère de Jean, avait été assassiné, martyrisé. Et ce qui est important de souligner, c'est que dans la Bible, c'est le seul disciple qui parmi les apôtres où on parle de sa mort, on ne parle pas de la mort de Jacques, de Paul, mais la seule raison concluante serait que il n'était pas encore mort. Mais Jean, Jacques, et nous savons que Hérode Antipas a régné comme roi vers l'année 41-44. Et cela implique que le livre des Actes a dû être écrit vers l'année 44. Cependant, Luc a écrit le livre des Actes et le livre de Luc. Au début, c'était un livre, mais qui a été séparé en deux. Parce qu'en Actes, il dit mon précédent livre. Alors, si nous savons que ça a été écrit quelque temps après 44, et on nous parle de la mort de Jacques, parce qu'il était un disciple qu'on peut classer au milieu, parce qu'il y en a pour certains où on a beaucoup parlé d'eux. Pierre serait l'un de qui on a beaucoup parlé, mais Jean, qu'on le mettrait au milieu, et alors on parle de sa mort. Alors, il y a un historien, Joseph, qui dit qu'il est mort. Et voilà, il y a des sources extérieures qui disent qu'il est mort. Et la Bible, peut-être. Alors, ce que je dirais, c'est que nous parlons des documents qui ont été écrits à cette même époque. Et on va voir comment Luc parle des différents aspects qui se sont passés à cette époque, mais il n'en parle pas d'autres. Et par exemple, il y a la tension politique qu'il y avait à cette époque, voyez-vous, il y avait une tension qui était montée à cause du fait que les Juifs étaient occupés et qu'ils désiraient la liberté. Ils priaient et demandaient à Dieu, est-ce que peux-tu lever un leader comme Moïse qui va nous sauver de ces Romains? Bien sûr, Moïse était cette image qui les avait libérés de la captivité en Égypte et ils s'attendaient à un sauveur pareil à Moïse. Et on aurait certaines images de Messie. Mais les Juifs pensaient que Dieu n'agissait pas assez rapidement comme ils voulaient. Et il y avait un groupe qui avait un groupe de. Qui c'était un groupe qu'on appelait des Sakari, qui assassinait toutes les personnes qu'ils pensaient qu'ils ne poussaient pas assez bon, qui n'avaient pas leur, qui ne poussaient pas assez vite leur agenda. Et Luc nous parle dans l'acte 21 que les Romains avaient confondu Paul de ces gens-là. Et on nous parle de l'époque où un grand prêtre avait été assassiné. Et Joseph nous dit comment il assassinait les gens presque chaque jour. Et il y a eu la ça a culminé vers l'an 64 où il y a une rébellion et un grand combat qu'ils ont eu. Et les Romains les ont battus jusqu'à leur siège. Et ils avaient été assiégés et jusqu'à leur endroit fortifié. Et alors qu'ils étaient prêts à les arrêter, ils se sont tous suicidés avant qu'ils soient capturés par les Romains. Et cette histoire, elle est encore racontée dans l'histoire aujourd'hui. Et l'histoire nous dit ce qui s'était passé après qu'ils aient perdu, c'est que les Romains les avaient punis sévèrement. Les Juifs avaient été dispersés et plus que ça, en l'année 70, ils avaient renversé le temple. Et c'est quelque chose pour lequel les Juifs étaient si fiers. Et quand on va à Rome aujourd'hui, on peut voir l'arche de Titus et on voit comment qu'ils avaient utilisé les finances pour détruire le temple et comment ils avaient perçu l'argent qui... Et pourquoi je parle de toute cette histoire? C'est que le Nouveau Testament nous parle de cette tension et puis ça stoppe, ça continue pas, ça nous dit pas jusqu'où et ça s'est allé, ça nous parle même pas de la destruction du temple et ces choses passées, mais la Bible n'en parle pas, mais j'en parle parce que juste Jésus avait prophétisé que ça allait prophétisé que ça allait arriver. Et c'est pour certaines raisons que certains érudits ont douté sur la véracité de la Bible. Et pourquoi on n'en parle pas dans la Bible qui se poserait la question? C'est juste le silence. Mais nous avons beaucoup de raisons de croire que la Bible avait été écrite avant. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux dire sur ça. On peut voir beaucoup d'évidences. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder nos vidéos qui ont pour titre « Est-ce que je peux faire confiance à la Bible ?» où on parle de différents manuscrits et vous pouvez voir, c'est gratuit sur YouTube. On veut savoir si la Bible avait été écrite avec véracité et la plus grande question de la vie, est-ce que ça a été écrit avec véracité? Et regardons quelques passages. Ici, je vais aller encore à Acte 12, verset 4, 5. On va regarder. On parle de la sentence de Pierre. On va le lire, le verset 4. Après avoir arrêté Pierre, il est mis en prison, le confiant à la garde de quatre escouades, des quatre soldats chacune. Hérode avait l'intention de le faire comparaître en jugement public après la Pâque. Ainsi, Pierre était gardé en prison, mais l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. L'emprisonnement de Pierre montre que la Bible a été écrite avec exactitude. C'est que on nous dit qu'il est environné, il est enchaîné avec deux gardes, et on explique comment il a été libéré quand l'ange est venu. Il sort Et l'ange avec lequel il part disparaît. Et puis Pierre se rend compte que ce n'était pas un rêve, qu'il vient d'être libéré. Alors il décide d'aller à la maison de Marie, la mère de Jean, qui est aussi appelée Marc, qu'on a une autre référence qui dit Jean-Marc, qui avait écrit les livres de Marc. Pierre arrive là-bas alors que la servante vient, il toque, la servante vient, et elle est surprise, elle rentre, elle ne le fait même pas entrer, elle va dire, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Elle leur dit que Pierre est là, et Pierre continue à toquer, ils viennent, et Pierre leur dit toute l'histoire, comment il a été libéré de la prison. Il leur dit qu'ils aillent dire à Jacques, le frère de Jésus qui est encore vivant, et Pierre continue son œuvre. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la véracité de la Bible? Et ces passages nous démontrent que la Bible a été écrite avec véracité. Et premièrement, considérer à quel point ces détails sont familiers. Et les gens sont surpris par des miracles. Mais la Bible est aussi remplie de détails qui sont embarrassants. On parle de David qui a eu on parle de l'infidélité de David, des détails embarrassants qui ça nous parle de ces détails, qu'ils soient embarrassants, même quand Pierre lui-même ne croit pas qu'il a été libéré, même quand l'Église n'est pas capable de croire que la prière qu'ils étaient en train de faire, elle est exaucée. Et tout ceci nous montre que ces choses sont vraies. La deuxième chose que je vais souligner, alors que Luc écrit à son évangile et les actes, il donne constamment des bons détails. Par exemple, et quand il nous parle de quatre escouades et soldats montant la garde autour de Rol toute la nuit, un écrivain explique comment ça se passait. Et ça serait 16 militaires qui gardent la personne durant la nuit. Pourquoi? Et regardez cette source. Il dit, et parce qu'il semblait impossible aux sentinelles de maintenir des gardes efficaces, on va dire parce qu'ils dormaient, la garde était donc divisée en quatre parties par le clepsydre, afin qu'il ne soit pas nécessaire de monter la garde pendant plus de 3 heures. Et ça, c'est un petit détail que Luc est en train de dire et que nous pouvons aller vérifier. Et il fait un effort d'être véridique dans ses récits. Luc, il est en train de parler de l'histoire, il ne donne pas de fables. Encore une fois, il dit comment j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement tout depuis les origines, d'en écrire pour toi un exposé suivi. Ces mots exposés font référence à l'histoire. Remarquez que Luc commence par son évangile ou les actes en écrivant « Il était une fois dans le pays lointain ». Et Luc inclut des histoires comme des miracles, par exemple l'histoire de Pierre et la résurrection, la vie de Jésus. Et la Bible a eu beaucoup d'attention à travers l'histoire. Roger Snark, un professeur qui a étudié et écrit l'histoire et l'impact social du christianisme, a rapporté qu'à un moment de son parcours de foi, il était personnellement incapable de foi religieuse. Pourtant, alors qu'il continue à la recherche biblique, il a changé d'avis, en partie à cause de son exactitude. Et regardez ce qu'il dit dans son livre « The Triumph of Christianity ». Il dit « Pendant plusieurs siècles, il y a eu une campagne longue et agressive pour discréditer autant que possible le contenu historique des évangiles. Certains érudits rejettent les évangiles comme rien de plus qu'un fantasme chrétien fond, tardif qui ne peut nous dire rien de fiable. Un chef de file de ces efforts était Hans Conzelmann, qui a affirmé par exemple que tout dans les livres d'actes était une fiction. Alors que l'archéologie a confirmé, maintes reprises, l'exactitude, l'évangile de Luc et Actes, les opinions ont changé. Il est maintenant considéré comme un excellent historien. Je veux juste partager quelques exemples. Un exemple, c'est Luc rend correctement les détails obscurs, par exemple, des traversées de la mer correcte. De son voyage en bateau, en bateau de Paul, car il semblait on dit que ça semblait erroné. Pourtant, une fois que les historiens ont pris en compte les courants et les vents dominants, Luc s'est avéré correct. Et il y a James Smith qui n'était pas un érudit, mais qui était un navigateur qui a essayé de faire les voyages que Paul avait fait. Et qu'est-ce qu'il a conclu après ses études sur ses voyages? Il a dit que Luc était véridique, qu'il savait ce qu'il disait. Luc rend correctement ses détails mineurs encore et encore. Par exemple, il donne dans Luc 3, 1 à 2, alors que je lis ceci, je voudrais que vous puissiez penser, est-ce que ça semble comme il était une fois, ça semble comme une fable. Et la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de Liturée et de la Traconidite, et Lysanias, tétrarque d'Abilène, du temps des souverains sacrificateurs Anécaïf, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Église, ça semble un peu bizarre, mais regardez il parle de 22 lieux et de personnes historiques qui ont été vérifiées par l'archéologie et d'autres sources anciennes. Et Luc veut que vous ayez confiance. Autre chose, par exemple, les érudits ont cru pendant certains temps que Luc avait incorrectement donné les titres de Ponce Pilate. Et la raison, c'est que Joseph et Tacite, des historiens du 1er siècle, écrivaient que le titre de Pilate était procureur ou procurateur. Et qui avait raison, bien sûr. Alors que Luc l'appelait préfet. Et dans l'année 1961, des archéologues ont découvert la pierre de Pilate de Césarée Maritime en Israël, ce qui a confirmé que le titre de Pilate était en fait préfet. Luc avait raison. Et ceci est important. Et la raison pourquoi Joseph et Tacite ont eu tort, parce que ce titre avait changé en 41. Alors qu'ils écrivaient, ils ont juste assumé que c'était la même chose. Mais Luc écrivait avec des témoins vivants qui étaient à cette époque. Et je vais juste vous encourager. Ça nous encourage. Ça m'encourage que Luc puisse avoir des détails, des petits détails avec confiance. Et je peux faire confiance qu'il a, avec des grands détails, qu'il a aussi raison. Et ceci est quelque chose qui a amené, par exemple, un historien qui disait que Sir William Ramsay qui disait il dit que il a eu cet auteur, il dit Luc devait être placé parmi les plus grands historiens du monde parce qu'il a eu des détails véridiques et il dit que c'est un grand historien. Je vais donner juste un autre exemple en rapidité. Dans Acte 17, Luc est en train de parler d'un quelque chose qui semble mineur et il parle de Thessalonique. Encore un autre exemple où les érudits à travers les années ont dit qu'ils ne trouvaient pas ces mots-là qu'il avait donné. Et qu'est-ce qui s'est passé après? les archéologues ont trouvé que ces détails étaient exacts. C'est pourquoi il dit que les résultats majeurs de nombreux attaques savantes acharnées contre la fiabilité historique du Nouveau Testament a été de frustrer les attaquants. Car encore et encore, les Écritures ont résisté à leurs défis. D'une part, le Nouveau Testament fournit une géographie très précise, non seulement d'Israël, mais de l'Empire romain. Les endroits sont là où ils sont censés être. Les temps des voyages rapportés sont cohérents avec les distances impliquées. La topographie est décrite avec précision et s'étend à des minuscules détails tels que l'emplacement de puits, des ruisseaux, des sources, des gorges, des falaises et des portes de ville. Et comment peut-il être si exact? Et bien sûr, on dit que la parole est inspirée, mais je vais ajouter à cela que dans Actes 16, 20, 21, 27, 28, il dit, il parle, il écrit « nous » dans les passages. Et il prenait note. Et ce que je voudrais que vous puissiez savoir, c'est qu'à l'époque, prendre les notes était quelque chose, une pratique courante avec des tablettes de cire et des papyrus. Il était intéressant de noter que c'est de là que vient le mot. L'apôtre Paul nous dit qu'il a fait la même chose. De Timothée 4, 13, Paul, il dit que, il envoie la note à Timothée, il dit, alors qu'il est dans sa cellule, envoie mes notes. Il pourrait très bien s'agir des notes que lui et d'autres avaient prises. Ce que je vais souligner encore au-delà de tout ça, à propos de la mort d'Hérode, ça nous apprend qu'on peut faire confiance à la Bible. Regardons ce qui est dit ici au verset 19. Hérode quitta alors la Judée pour Césarée et s'y séjourna. Il était en conflit avec les gens de Tyr et de Sidon. Ils se concertèrent et allèrent le trouver. Après avoir gagné à leur cause Blastus, intendant de chambre du roi, ils demandèrent la paix parce que leur région tirait la subsistance de celle du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu des habits royaux, s'assit sur son trône et adressa les discours au peuple. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu, non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé par les verbes. Cependant, la parole de Dieu se répandait et gagnait du terrain. Regardez, c'est un des passages que tu peux lire et tu te demandes « Oh, mais ça c'est bizarre. Qu'est-ce que je fais avec ceci ?» Savez-vous, des fois, des choses bizarres, ça arrive. Et quand on cherche des sources extérieures, on voit que c'est une histoire vraie. Et alors, Tyr et Sidon étaient des villes côtières méditerranéennes et ne pouvaient pas cultiver leur propre nourriture. Hérode contrôlait les routes cavalières vers la côte et ils avaient besoin que leurs approvisionnements en nourriture soient rétablis et étaient prêts à recourir. Et Joseph nous dit que pendant les discours d'Hérode, il portait des vêtements en argent qui brillaient à la lumière et que la foule l'appelait un dieu, notamment le roi, notant que le roi ne les réprimanda pas ni les rejeta leur flatterie. Et bien plus que cela, alors que quand je reviens à sa même question, est-ce que je peux faire confiance? Une chose pour laquelle je peux vous encourager, c'est ça que nous regardons, c'est pas seulement que ça a été écrit tôt, ça a été véridique, mais puis-je vraiment faire confiance vers la parole de Dieu dans ma vie? Et c'est l'ironie de tous ces chapitres. Ces passages commencent à la Pâque, où les Juifs célèbrent l'intervention miraculeuse de Dieu pour sauver la nation juive, la fidélité. Dans cette bataille avec l'Égypte, pourquoi? Pour leur liberté. Et Dieu avait battu Pharaon qui avait un entêtement envers Dieu et cela lui avait coûté la vie à son fils. Alors que l'ange passe au-delà et ils avaient été libérés d'Égypte. de cet esclavage. Et quoi d'autre? On nous dit que Dieu, dans sa fidélité, va donner la vie de son garçon, de son fils, et on dit qu'il va demeurer fidèle et qu'il va libérer les Juifs. Mais alors quand Jésus vient, il dit que je suis venu libérer beaucoup plus, un ennemi beaucoup plus grand que ce que vous attendez. Je vais vous libérer de la mort et du péché, le plus grand esclavage qui puisse exister. Ça, c'est un passage c'est intéressant de voir comment Jacques et Pierre, comment ils font face à la mort et comparé à Hérode. Voyez-vous, Jacques et James, Jacques, et il avait fait confiance en Christ pour leur vie. Plus tôt cette semaine, a reçu un email d'un auditeur d'Apologetic Canada. En fait, on avait fait un podcast la semaine passée. Et je vais lire pour vous dans quelques moments. Et vous pouvez... Et voilà ce qu'il a dit. Je vais lire ça pour vous. Bonjour, j'habite à Reno, en Nevada, et j'ai une femme et un bébé de 9 mois. Je suis chrétien et je suis Jésus depuis quelques années. Récemment, après quelques décès que j'ai vécu dans ma vie, j'ai été très nerveux à l'idée de ma propre mort. Je deviens extrêmement anxieux et je sais que je mourrai un jour. Je suis récemment tombé sur beaucoup de contenu sur Apologie Canada qui a été extrêmement encourageant pour ancrer la vérité des évangiles dans mon cœur. Finalement, j'aimerais trouver une bonne réponse théologique sur ce que sera la mort et de quoi ressemblera l'éternité avec Dieu. Je veux de l'espérance pour la vie à venir et ne pas vaincre la mort corporelle. Et ne pas craindre, pardon. Remarquez qu'il y a, peut-être qu'il y a, c'est la mort, il y a la mort et l'une des choses qui, avec laquelle tu luttes, peut-être un ami dira que c'est affronter la mort dans, des fois peut être, apporter la dépression et la vérité c'est que nous ferons tous face à cela et on doit se poser la question comment est-ce que nous pouvons vivre au milieu de cela. Et dans le passage, quand on voit Pierre et Jacques, ils vivent avec l'espérance. Et quand Pierre qui dit dans son livre, dans chapitre 1, quand il écrit à l'église persécutée, il dit que nous avons une vie, nous avons une espérance vivante. Et je voudrais expliquer ceci. Voyez-vous, comme ayant vivant avec l'espérance vivante, notre espérance est que Jésus a vaincu la mort et nous avons l'espérance en lui, mais cette espérance n'est pas une espérance future que j'ai un jour que je mourrai et j'irai rencontrer Dieu. Voyez-vous, l'espérance chrétienne, c'est pas que tu vas aller vers le ciel, mais le ciel est venu vers toi. C'est pas que tu vas travailler pour aller vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers toi. Voyez-vous, l'espérance chrétienne, c'est que Jésus dit dans Jean 17, 3, il dit, ceci est la vie éternelle, qu'il puisse te connaître. La relation avec Dieu. La vie éternelle, c'est à propos de la relation avec Dieu. Et cette relation ne commence pas quand tu meurs, Église. Ça commence maintenant quand toi et moi, on place notre espérance en lui et on commence à vivre avec lui maintenant, avec Dieu maintenant. C'est pourquoi je t'encouragerai, tu peux placer ta confiance en lui et commencer à expérimenter cette espérance. J'aime comment Paul écrit cela dans la fin du livre de Corinthiens. Maintenant, nous avons ces trois choses, l'amour, il dit l'amour, la foi et l'espérance. Il dit la plus grande, c'est l'amour. Et je pense qu'il dit qu'un jour que tu mourras, mais la chose qui va demeurer, c'est l'amour que tu as dans ce monde. Ta relation que tu as est la plus importante. La relation avec les autres et la relation avec Dieu est la plus importante parce que c'est des choses éternelles. Et quand nous commençons à marcher avec Dieu, c'est que nous plaçons notre espérance en Christ. La question que j'aurais pour toi, est-ce que où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Es-tu quelqu'un comme Hérode où tu as un cœur endurci envers Dieu, où tu veux pas voir ce que Dieu a fait, ou le plan qu'il a fait et l'espérance qu'il a donnée, ou bien comme Jacques et Pierre, voudrais-tu t'humilier et voir ce que Dieu a pourvu pour toi et placer ta confiance en lui et vivre? Ce que je dirais, Église, où que tu sois aujourd'hui, Église, c'est que nous puissions placer notre confiance en Jésus et que nous puissions marcher avec lui et que nous puissions commencer à expérimenter un avant-goût du ciel maintenant. Pouvons commencer à expérimenter la vraie relation avec Dieu et faut commencer maintenant. Et je peux aussi te dire que l'opposé est aussi vérité. Bien sûr, tu peux avoir un avant-goût du ciel, du paradis, et tu peux aussi avoir l'avant-goût de l'enfer. Et de quoi ressemble le rejet de Dieu? Et si la meilleure chose, c'est de venir à lui, de faire confiance en lui, de faire confiance à sa parole et de demander à ce qu'il puisse te guider et que tu puisses marcher avec Dieu dans ta vie de chaque jour. Il y a quelques questions qui vont être projetées à l'écran et laissez-moi juste prier pour vous. Où que vous soyez avec le Seigneur, je vais juste prier que vous puissiez le rencontrer, que vous puissiez prendre un... voir clairement où est-ce que vous en êtes avec lui, si vous êtes en opposition avec lui ou bien si votre cœur est ouvert à lui et permettre à Dieu qu'il vienne guider votre vie et que la Bible est au-delà de tout. Sachez que vous avez une bonne raison de faire confiance. Je prie que vous puissiez le suivre. Père, nous sommes reconnaissants que tu nous aimes et que tu ne nous as pas laissé nous débattre pour aller vers toi, mais tu es venu vers nous et tu nous invites à avoir une relation avec toi. Je prie que nous puissions répondre à ton invitation. Je prie que nous puissions croire que tu es ce que tu dis que tu es. Tu es la voie, la vérité et la vie. Et que nous pouvons commencer à marcher dans l'éternité avec toi. Et je prie tout ceci dans ton nom, au nom de Jésus. Amen.